Oh, tu m'énerves. T'as tout le temps regardé la télé, tes matchs de foot, là. Oh, j'en peux plus, là. Je suis littéralement ventousé devant ton écran à regarder toute cette espèce de barbare qui court après la balle.
Des barbares ?
Oui, ce sont des barbares.
Des beaux athlètes comme ça ?
Ah, d'accord, je vois ce qui t'intéresse. Hein ? Évidemment. Hein, c'est la fête des corps.
Attention, je vous interromps, c'est parti, c'est un départ qui... Oh là là.
Aïe, que se passe-t-il? Serait-ce à nouveau Satan d'imite?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.
Voilà. Donc, ça, on va en l'air.
Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là.
Eh bien, bien le bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Ta mère en short, l'émission consacrée exclusivement au sport et à ses à côté. Voilà, tous les lundis, 12h30 jusqu'à une heure, un horaire approximatif, surtout aujourd'hui, en ce dernier lundi de la saison. Voilà, on avait fait faux bond à quelques reprises. Là, on se devait au moins de tenir le crachoir, le micro, le câble XLR, la console et l'antenne. Pour la dernière de l'émission, je suis bien sûr en compagnie du plus fidèle des fidèles, l'ami Philippe Guinchard, plume parmi les plumes de leur info La Dépêche. Merci à toi d'être présent, salut à toi Philippe.
Ça me fait plaisir, salut.
Exactement, on se devait hein, de relever un peu la chose puisque il s'est passé pas mal de choses positives cette année sur le territoire local. Et puis il y a aussi des mouvements, des transferts. On pourra parler de transferts aussi au footballistique puisque j'ai quelques infos. Et on parlera principalement aussi de la LM Évreux puisque Laurent Pluvis, le nouvel entraîneur, a lâché son poste de commentateur. Ça y est, c'est fini. Il n'y aura pas de match supplémentaire. On parle des.
Je vais faire remarquer d'ailleurs qu'il avait bien lâché parce qu'il a commenté à la fois l'accession d'Antibes en proie et le sacre de Limoges samedi soir.
En pro B pour Antibes et en proie pour Limoges.
Le sacre d'Antibes qui va monter. Et donc, j'espère qu'il nous portera la même chance. Hein. Ce que je vais mettre dans l'introduction de mon papier, c'est que je pense que c'est quelqu'un déjà qui a le nez pour être au bon endroit. Voilà, donc voilà.
Allez, alors vite fait quand même, est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont... parce qu'on démarre toujours par ça, dans l'actualité récente, locale ou internationale, où ça peut être deux points, qui t'ont marqué ces derniers jours, ces derniers temps?
Ouais, j'ai pas regardé grand-chose, je suis un petit peu en période de... Voilà, je me suis un peu calmé, on a fait un très bel... je voulais rendre hommage, on a fait un truc assez sympa, l'inauguration de la salle là, qu'on a fait avec les premiers espoirs qui sont venus à Jean Moulin, et la salle du gymnase Jean Moulin, ça a été baptisée officiellement salle Gaston Simon. On avait parlé de ce monsieur-là qu'on aimait beaucoup, et voilà, on a trouvé que c'était plutôt une bonne idée de donner un nom à la salle. Bien entendu, le gymnase Jean Moulin restera toujours le gymnase Jean Moulin, mais que la salle soit baptisée à ce nom et avoir sa photo dans cette salle-là, ça a un sens. Donc voilà, on a fait ça la semaine dernière avec les premiers espoirs de l'ALM qui se retrouvent sous l'égide de la GERB, la génération des espoirs reconnus du basket hébroïcien. C'est une petite blague au départ, mais voilà, on a mis des lettres sur un nom. Et puis, il y a eu un bon moment avec des anciens qui sont revenus. Il y a Joe Gomis qui était là.
Qui est énorme parce qu'il était, on rappelle qu'il jouait encore cette année.
Joe, en fait, je l'ai prévenu et je pense que personne ne l'avait fait. Donc, il était touché qu'on pense à lui et il voulait lui aussi rendre hommage à Gaston Simon. Il a chaussé les baskets, c'était cool de partager quelques
moments. Il doit être encore bien tranchant.
Ouais, puis c'était pas trop le but. Il a juste fait ce qui, juste dans l'esprit. C'était très sympa. Voilà, donc ça c'était le petit truc vraiment qui m'a bien marqué au niveau local. Bon, maintenant à côté de ça, il y a eu plein de choses. Il y a eu la victoire de Barcelone. On a vu un petit des gars qui s'épanouissent un peu au tennis en ce moment avec Nicolas Mahut et Gilles Simon aussi, qui sont assez intéressants. Qui va être intéressant de les voir sur le gazon là dans les jours prochains. Et puis voilà, puis j'ai commencé à regarder, mais je me suis endormi parce que c'était vraiment terrible hier. Je voulais regarder le dernier tour de l'USPGA qui avait lieu sur un terrain incroyable
Moi j'ai vu quelques images, mais c'était quoi l'histoire? C'était aride
c'était plus qu'aride, c'est un terrain, c'est même pas, ça m'appelle un lynx, mais là c'était
jaune
terrible,
l'herbe.
C'était jaune, tu voyais même pas les greens, c'était impressionnant. T'avais l'impression d'être dans une sorte de décor.
J'ai vu quelques images.
Un décorum qui était complètement. Et donc j'ai craqué, je me suis enregistré à la fin. Mais voilà, c'était les bons moments de l'instant.
Alors Antibes qui monte, on va parler basket après, mais on va faire un petit clin d'œil aussi NBA par ailleurs. Antibes qui monte, qui n'a pas usurpé sa place en finale, hein, même si je les aurais, nous on avait mis quelques pronostic hein, avec, avec l'ami Rémi Vallin il y a quelques semaines de cela. On n'y était pas trop sur cette finale.
Pas du tout. Pas du tout.
Denain-Antibes.
Denain, oui. Parce que Denain, on avait dit que c'était une équipe qui jouait sur une, très long, une très grosse longueur de blanc avec des joueurs qui ont été appliqués. 11 joueurs. Hein.
11 joueurs.
Et ils ont été appliqués toute la saison. Ils n'avaient rien à perdre. Et vraiment, ils n'ont rien à perdre jusqu'au bout. Hein. Ils ont vraiment joué le jeu.
Ils ont remporté le premier match en plus ou le second
ils ont.
Parce que la finale, c'est 2-1. Ils ont rencontré le premier match à Antibes. Antibes a gagné chez eux.
Ils ont perdu 2-0. Ils ont perdu le premier match chez eux. Et c'est le match, le tour d'avant où ils ont gagné, ils ont gagné à l'extérieur. Mais non, c'est un club qui était vraiment. Voilà, qui était en plus, ça, c'est aussi un petit clin d'œil. C'est que nous, on les a défiés le dernier match. Où ils nous étaient rentrés dedans. Ils avaient largement. Ça fait encore plus regretter le fait d'avoir été aussi près de pouvoir jouer le titre à la fin. Je pense que ça aurait pu être jouable, même si Antibes avait, avec Team Blue et Solomon, des joueurs vraiment assez impressionnants à ce niveau-là, et des joueurs de play-off pour les play-offs qui savent vraiment se concentrer sur des moments forts. Mais ça donne des regrets encore, hein, mine de rien, sur une saison qui où on est passé.
Parce qu'Antibes, on les avait escoffés à la maison. Dommage. Dommage. En tout cas, Antibes, voilà, qui accède en proie.
Antibes et Monaco, deux voyages de moins. C'est le trésorier de l'ALM qui va être content. C'est deux voyages au long cours qui seront un peu plus simples à gérer. Ils seront remplacés l'année prochaine par Saint-Chamond. Ça sera une première, hein, un petit club qui va arriver. Et par Vichy, qui revient. Et c'est une salle aussi intéressante.
Et Vichy qui, pour le coup, en plus, a rejoint Clermont. Hein. Il n'y a pas une histoire comme ça. Il y a une histoire de fusion.
Il y avait une histoire d'entente. Je pense pas que la fusion soit faite. Il y a une entente. Je pense que c'est un peu comme Passy et comme Ormond et Quevilly. Ça doit se jouer uniquement sur l'équipe première. Mais oui, effectivement, c'est ce qu'on entend en ce moment.
On reste en France, la proie, Limoges, qui gagne.
Samedi. J'en ai pas parlé, mais oui, c'était le match samedi, et c'était le match à Beaublanc, commenté par Laurent Pluvy, donc on en parlait tout à l'heure, là, avec David Cosette, et c'était un match, enfin, ils ont fait un match de mammouth, et c'est sûr que c'est très dur à digérer, je pense, pour Vincent Collet, mais voilà, c'est super de voir une salle comme Beaublanc, ils n'ont pas fait une super saison, c'est bizarre à dire, parce qu'on a toujours tendance à. Mais voilà, quand Jean-Marc Duprat a été coupé, je pense qu'il fallait le faire, parce qu'il était complètement. Il n'était pas suivi par ses joueurs. L'arrivée de Philippe Hervé, je ne sais pas trop quoi en penser.
Pas de palmarès,
quelqu'un d'assez. À un moment, il a une période assez pédante, et là, il a été super touchant. Je ne sais pas si tu as vu les images.
Il a
perdu son papa, il avait la montre son père. Bon, je pense que c'est des moments. C'est peut-être un petit peu théâtralisé aussi, des fois. On peut toujours être un peu. Mais il avait une émotion sincère, et c'était vraiment très beau.
Après le premier match perdu, ils perdent Moherman, le MVP de la saison.
Ils gagnent le premier match, ils perdent le deuxième et Moherman. Donc tu peux te dire que va être difficile. Mal. Et en fait, non, ils tiennent
2-1-3.
Et avec des seconds couteaux, dont le Havre Camara qui a été élu MVP de la finale.
Alors là, pour le coup, oui, mais bon, sur les stats, c'est pas sur les
stats. Non, c'était sur son impact. Mais puis Fréjus Zerbo aussi qui a fait son meilleur match statistique et même globalement, parce qu'il a été très bon avec un gros pourcentage au shoot ce jour-là. Et puis la folie de Beaublanc, quoi, c'est exceptionnel. T'as le stade de Clermont qui est ouvert aussi, où t'as 10 000 spectateurs qui regardent ça derrière, t'as le public qui sort après, t'as toute la ville qui est en fête une journée avant la fête de la musique. C'était déjà un bazar non-stop. J'ai des potes qui étaient là-bas qui m'ont raconté que c'était au moins au niveau de l'an passé, voire plus. L'an passé, il y avait ce côté renouveau qui était intéressant, mais là, le fait d'avoir fait ce back-to-back là, qu'on aime bien voir dans le basket, ça générait vraiment une grosse ambiance. Et puis Fred Forte, que je connais un peu, que j'apprécie, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est un gars que j'aime beaucoup. Alors avec les défauts, il est devenu président, donc il doit certainement trancher des fois.
J'allais en parler, il est un peu décrié.
Il est carrément décrié, il annonçait qu'il avait un projet à Paris, donc beaucoup de doutes et tout ça. Mais en fait, ce qu'il a fait quand même, mine de rien, quoi que tu lui retireras jamais le fait, qu'il a fait gagner quand même 2 ans de suite Limoges, en faisant des choix, mais en faisant des bons choix. Donc,
parce qu'on se rappelle de la signature de Gélabal, à l'époque on l'évoque comme un mercenaire.
Ouais, et Et globalement, sur la saison, c'est pas, il fait pas du tout une bonne saison. Tu as l'impression que c'est une curie. Or, en finale, il est là, surtout le match 3. Et puis,
c'était l'énorme recrue.
Bah oui, et puis qui fait enfin le gros match qu'on attend de lui le jour de la finale, ou qui bouge tout à la fin. Ouais.
Ce qui est
non,
plutôt
non,
bien.
Ouais, non, c'est. Bon, voilà, c'est un mec qui connaît le basket, hein, c'est un président qui connaît le basket, qui connaît aussi le business, qui sait que, bah, on se fait pas que des amis quand il faut trancher. Je pense qu'il met un peu l'humain de côté par moment. Mais voilà, les résultats lui donnent raison.
On peut dire aussi autre chose, c'est que on a loué la profondeur du banc et donc du collectif de Strasbourg. Il y avait de grosses individualités à Limoges, mais clairement, les 10 joueurs en face les uns des autres, Strasbourg avait un effectif plus riche. Au final, moi, sur ce dernier match, là, cette victoire tombe 3-1, on le rappelle, hein, après avoir effectivement perdu la seconde rencontre, le collectif, les phases de jeu, les schémas tactiques, l'application, l'implication était limougeaude. Ça sautait aux yeux. On a recherché les trois points mystères de Strasbourg, qui étaient une force forte de leur saison. C'est vrai, cette adresse à trois points avec plusieurs gâchettes, avec maintenant ces joueurs modernes qui sont plutôt des gros 4 ou parfois des 5. On pense aux Croates, là, ou je sais plus, ouais, là, ouais. Qui est capable de sortir et dégainer à free. Là, sur ces finales, ils n'avaient pas la réussite à 3 points, Strasbourg. Bon, là, dans la fin de match, sur la quatrième rencontre, bon, ça tire un peu à l'emporte-pièce, ça en place quelques-uns, mais ça n'y était pas. En tout cas, moi, avant ce match-là, je parlais avec des copains qui étaient plus pour la SIG. Pardon, moi, j'aimais à espérer pour Limoges, parce que voilà, l'histoire, l'équipe, ses individualités qui me parlaient, eh bien, le collectif et le beau jeu, pour moi, étaient encore plus du côté de
Limoges. Ouais, mais je pense que
pas démérité pour le coup. Hein.
T'as raison. Je pense que c'était. Oh, puis je pense que l'ambiance aussi vaudra jamais. C'est difficile pour Vincent Collet, hein, parce que je pense qu'effectivement, il a fait une très grosse saison. Il gagne la Leaders Cup, il gagne la Coupe de France, il arrive encore en finale.
Il finit premier du championnat.
Il finit premier du championnat de saison régulière, et puis à la fin,
quatre défaites.
Il plante. Et c'est dommage. Bon, il va falloir qu'il reconstruise. Lui, il va rester, il va reconstruire parce qu'Antoine Diot va partir.
Pas que, mais oui,
entre autres. Ouais. Et donc, il va falloir qu'il reconstruise. Et là, il pourra. Enfin, en tout cas, l'expérience qu'ils avaient acquise l'an passé avec cette finale-là ne leur a pas servi. Donc, c'est un peu dommage pour eux.
Affaire à suivre. Voilà. On parle quand même vite fait de Outre-Atlantique.
Ouais, ce que je voulais t'en parler dans les grands trucs qu'on a vus quand même.
C'est quelque chose
qu'on s'est pas vu, mais j'ai découvert, parce que j'ai regardé beaucoup plus longuement que je le regarde habituellement. La NBA, ça tendance un peu à m'ennuyer. Mais quand j'ai vu Stephen Curry, je pense que c'est quand même un mec. Autant LeBron James, il est impressionnant, mais je dirais c'est pas ça qui me transcende. Autant de voir des gars qui ont un talent pur comme ça, qui ont une créativité dans les mains, dans des appuis incroyables et tout. Là, je suis devenu dingue de ce mec-là.
Moi, c'est depuis maintenant un an ou deux, le joueur que j'affectionne le plus outre-Atlantique. J'aimais beaucoup Derrick Rose, mais Stephen Curry, outre ses blessures en début de carrière, parce qu'il a 6 ans de pratique, hein, fils de Ed Curry, qui pour le coup, lui, avait été un joueur des Charlotte Hornets, que moi j'ai connu à l'époque quand je suivais très fortement la NBA. Effectivement, ce joueur est incroyable. Alors, il a été légitimement MVP de la saison. Les playoffs avaient été abordés pied au plancher avec des gros, gros matchs de sa part sur les premiers tours. Et puis, une finale où il se loupe un peu sur les deux premières rencontres. Il n'est pas parfait. Et puis, où après, il prend toute sa majestuosité de basket, parce que clairement, comme tu le dis, il est élégant, mais il transpire le basket. Ouais, il incarne le basket. Il est maigrelet, il a un shoot qui est incroyable, où j'ai l'impression que de toute manière, s'il n'y a pas d'adversité ou un défenseur qui lui colle au basque ou qui a la main devant son nez, ça sert à rien qu'il shoot, c'est pas ce qui lui fait plaisir. Il décroche des appuis incroyables. On parle du step back, c'est cette pratique, mesdames et messieurs, dames, d'avancer, de dribbler, puis d'avoir un petit pied de recul. Michael Jordan qui en était l'incarnateur par excellence. Stephen Curry, il est juste magique sur cet aspect-là.
C'est un drôle de step back, parce que Michael Jordan avait des appuis, je dirais, standards. Lui, il a des appuis incroyables. T'as des appuis de danseuse, des fois, t'as l'impression d'avoir un mec qui sort des pointes et que là, il balance un shoot dans des conditions, il doit avoir un gainage incroyable en plus.
Donc, de belles finales, avec avec un gros collectif de la part des Golden State Warriors. Steve Kerr qui en est le coach.
Ouais,
on parlait de Michael Jordan, c'était l'adjoint de...
C'est ça aussi qui fait le charme de ça.
Premier titre, ouais, ouais, énorme.
Premier titre, ouais, premier titre de Steve Kerr. C'est bien d'avoir gagné le titre comme joueur et comme... Ils ne sont pas nombreux, hein, entre joueurs et coach, pas mal. Et jeune coach en plus. Hein.
Donc de belles finales NBA. Alors LeBron James, moi je ne suis absolument pas fan. On n'est pas là pour donner nos avis, mais ça reste quand même un gros joueur.
C'est un mec, quand tu vois un mec mais 40 pions, 16 rebonds, 11 passes, c'est vraiment...
Il a porté son équipe et puis au final...
Et puis c'est quand même une équipe qui n'est pas terrible à la base.
Et hein, voilà, Cleveland, on ne les aurait jamais imaginé aller en finale cette année. Oui, il y avait le retour de LeBron James, mais c'était loin d'être gagné. Bon, certes, il y avait Kevin Love, mais déjà, il se blesse avant les playoffs. Bim. Ouais,
c'est ça.
Ensuite, Kyrie Irving, qui n'est pas là non plus pendant les playoffs, mais du coup, il y a l'Australien de la Nova, là, qui remplit parfaitement le... Enfin, parfaitement, non, puisque c'est pas le même niveau. Qui pallie à cette défection et à cette blessure de manière très honnête, qui a beaucoup dérangé Stephen Curry sur deux matchs. Et puis, bah, derrière, voilà, Stephen Curry qui prend un peu moins de shoot, qui force un peu moins la chose, qui distribue davantage, qui prend les shoots importants et... Pff, ouais, juste magique et beau, son basket. Soyez curieux, voilà, allez voir le top 10 de la saison de Stephen Curry, voilà, vous pouvez vite trouver ça, ils sont très fans, très amateurs les Américains, vous avez top 10 pour tout. Mettez top 10 saison, voilà, et puis mettez un top 10 playoff, vous allez juste halluciner, voilà, ces dribbles au ras du sol, voilà, à faire sauter les joueurs, à faire glisser les joueurs, à leur faire... Enfin, la misère, comme on aime à dire.
Ouais, voilà. Et puis avec un tempérament, plus ça, il n'est pas chambreur, vraiment.
Non,
il est élégant et ça fait plaisir de revoir des mecs qui ne sont pas des mecs un peu trop puants, c'est sur des attitudes un peu, voilà, je suis le meilleur et tout ça. Il y a une conférence de presse qui a été énorme de LeBron James où je pense qu'il en est convaincu et on ne peut même pas lui donner tort. Parce que
je suis le meilleur joueur.
Je suis le meilleur. Bon, j'ai un don, je suis le meilleur, voilà, je sais où donner la balle, je sais le faire, maintenant j'essaie de corriger les gars, et tu l'entends même, il y a un micro-off qui est avec lui, qui est impressionnant, parce qu'il corrige tous les petits trucs de chacun, il dit, hey, je te le prends, il est vraiment, c'est assez marrant d'écouter ça.
Ah, c'est un grand champion quand même.
Mais ouais, c'est un très grand champion, je pense que dans n'importe quel, il peut faire gagner n'importe quelle équipe, c'est ça qui est important, mais voilà, le côté talent pur, là, c'est Stephen Curry, ça m'a botté.
On est d'accord, on s'accorde une petite pause musicale et puis on va parler du coup un peu plus local avec Evreux et ses arrivées, puisque on était un peu surpris, il n'y avait pas grand chose le week-end dernier, puis cette semaine...
Déferlante.
Ah ouais, cette semaine c'était une signature par jour. On remercie Elsa maintenant de nous informer en temps et en heure. J'avais le droit aux petits textos qui allaient bien là pendant le week-end, il y en a eu 3 qui sont tombés. D'ailleurs c'était rigolo, on parlait de musique samedi sur Antenne Principe Actif, puis on a placé le retour de Drake Reed et de cet Indien. Mais on va revenir dans quelques instants sur le sujet. On s'accorde une petite pause de musique. Allez. A public service announcement from your friendly neighborhood laws professor. Ha, 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 ha. Sitting in the big house, filling his mouth. Then he got up and went to go chill on the couch and watch TV. Lit up a blunt, was not breathing. Airways for gaze, kid looked like a three-ring circus act. Look at the shirt on his back, need a neck smack. Used to walk out the left rack. Now he can't even walk to the store, need a vehicle. Next he gonna need a miracle. Them villains he was banging with was ill, cause they laugh behind his back, but then go to his crib and chill. And watch him smoke more and drink more, and think poor, without saying shit to the ball. I seen him one day making my way to the city, looking like he was doing self-pity. Said, man, throw the self-pity pit in the can. Basically, in a nutshell, this is what I'm saying. You gotta get off your ass, you gotta get on your job. You gotta get off your ass, you gotta get on your feet. You gotta get off your ass, you gotta get on your job. You gotta get off your ass, you gotta get on your feet. It's going, it's going, it's going, it's gone. Opportunity only once come along. Some every odd years, wherever I is, I seize the moment to see some Roman numerals. In pals and pals, with the creamy French dressing, all dows and owls, all salad. Unravel a bank, rolling pallet, then go and get another stack. Rolling with the wolf pack, Main Street blessings, effervescence. Ever since God brought me back to the lessons, I flourish, step with courage to get a rich or richer. In either direction, you get the picture. Crystal clear, like diamond wristwear. Another hot heat seeking missile for your ear. On fire, on the flyer, and big letters is LARGE, bringing the medicine. Been banging ever since riots out in Cali. Remember in 85 was active rally. Travel the globe and the worlds beyond. Not dissing, just listen to the words of the song. Another public service announcement from your friendly neighborhood laws professor. Get off your ass, get on your feet.
keep your feet to the street. You gotta get off your ass. You gotta get on your job. You gotta get off your ass. You gotta get on your feet. You gotta get off your ass. You gotta get on your job. You gotta get off your ass. You gotta get on your feet.
Rob Swift is business. Rob Swift is business.
L'Arche Professeur, mesdames et messieurs, dames, l'ancien toujours dans la place puisqu'il vient de pondre un album ô combien intéressant qui se nomme Reliving. Voilà, peut-être une manière pour lui de dire qu'il est toujours dans la place. Le morceau, c'était Off Your Ass On Your Feet, l'Arche Professeur, sur antenne de Principe Actif dans Ta Mère en Short. Voilà, on est toujours en compagnie, si vous venez de nous rejoindre, de Philippe Guinchard, fine plume et journaliste sportif de leur info La Dépêche. Hein, toujours au taquet de ce qui se passe sur, la, sur le territoire local. Et là, forcément, moult signatures. On parlait de la LM Évreux. Bon, alors, Laurent Pluvy, on était plutôt satisfaits, toi et moi. Toi, t'as une meilleure connaissance encore que moi du milieu. Mais c'est vrai que dans les options de l'après Rémi Vallin.
Satisfait à titre. À double titre, je dirais. Satisfait à titre personnel, parce que c'est quelqu'un que je connaissais. Et quand tu connais quelqu'un, voilà, il y a plus de facilité pour entrer en contact et créer des liens qui sont forcément obligatoires.
Et puis important dans le boulot.
Et puis, sachant que la personnalité, ça se rapprochait vraiment de celle de Rémi Vallin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime foncièrement le basket, toi, qu'il est consultant sur les chaînes de Canal, il est resté à fond dedans, il a pas le boulard, c'est pas quelqu'un qui veut révolutionner le truc, il sait où il est, il sait où il arrive, et donc j'étais plutôt satisfait par rapport à ça.
Et professionnel.
Et puis voilà, au niveau professionnel, c'est des équipes, il a réussi à faire avec des bouts de ficelle des choses à peu près fiables, et notamment avec Savalier, il a été très très bien. Je pense que c'est le coach qu'il fallait par rapport à ce dont on dispose au niveau local. C'est le coach qu'il fallait à Évreux pour trouver. Il y a des gars comme Fabrice Coursier, mais qui était sous contrat, des gens qui connaissent un peu la maison, qui savent où ils mettent les pieds, et puis qui veulent pas, qui n'arrivent pas avec une palanquée d'agents, enfin de sbires et tout ça avec eux. Voilà, lui il arrive, il va conserver Sylvain Grandcas, il va peut-être intégrer un peu mieux Fabrice François s'il vient à rester à Évreux.
Ah, parce qu'il y a une réflexion sur ce sujet-là.
Alors, non, Fabrice est sous contrat. Je pense que lui, peut-être, il attendait peut-être de travailler un peu plus, de monter un peu d'un cran, toi. Donc, je sais pas exactement quelle est sa situation. J'ai cru comprendre qu'il aurait préféré faire autre chose qu'uniquement de la vidéo. A priori, c'est lui qui va faire la vidéo. Mais voilà. Bon, je sais pas. Hein, c'est lui qui en parlera. Donc, en tous les cas, lui, Laurent Pluvy, il arrive ici à Évreux. Il n'arrive pas pour tout casser, et la preuve, c'est qu'il a commencé par recruter. Il a commencé par recruter des joueurs, conserver des joueurs qui formaient l'ossature de l'équipe cette saison. Pierre Etendro, qui a eu l'intelligence lui de rester un an de plus parce qu'il a eu une saison difficile, pas compliquée, par deux blessures.
Ce qui était une très bonne nouvelle. Ah, c'est une signature.
C'est une très bonne nouvelle parce qu'il commence à bien revenir. J'espère qu'il va être un peu épargné cette année, et vu la saison qu'il avait faite auparavant, je pense que ça sera bien de le voir sur une saison complète. Ça sera une très bonne chose.
Un très beau joueur de basket.
Il a réussi derrière à convaincre Guillaume Constantin de re-signer pour un an, à la fois pour assurer la stabilité du groupe, je pense, et puis être toujours ce fameux couteau suisse qui peut jouer un peu à tous les postes. Une hygiène de vie, nickel. Un mec qui adore le basket, avec qui je pense qu'il pourra avoir des contacts et qui sera aussi son relais sur le terrain. Je sais pas s'il sera toujours capitaine, mais je suis qu'en tous les cas, ils ont une relation privilégiée, je pense, par rapport à ça. Donc ça, c'est pas gagné parce qu'en fait, je pense que Guillaume, il souhaitait avoir un projet
on
derrière.
On parlait deux ans. Il voulait une reconversion.
Ouais, voilà. En conversion, je sais qu'à un moment il y a des clubs de N1.
Deuxième salaire de la LM en plus de mémoire l'an passé.
Troisième, je crois. Ouais, mais normal, hein, fin de carrière. Fin de carrière, pas de blessure. Voilà. Alors, ses stats parlent pas en sa faveur, mais ça, tout le monde sait que c'est pas dans ses stats qu'il faut voir la qualité de son jeu, quoi. Donc voilà. Bon, je sais pas.
S'il a fait des petits efforts aussi.
Il a perdu un peu d'argent. Mais bon, voilà, c'est aussi fin de carrière, et puis c'est aussi, voilà, c'est une saison qui est moins réussie parce que t'as pas les playoffs au bout derrière, quoi. je pense que les joueurs ils doivent réévaluer cette chose-là. Et puis aussi, il a la garantie d'avoir la confiance d'un coach. Voilà, le coach a tenu à le garder. Il n'a pas dit voilà, je vais filer 2000 euros pour qu'il se barre. Quoi. Ils ont trouvé un accord au niveau financier avec un projet d'un an, en disant que s'il n'y a pas de raison pour que ça continue pas un an de plus derrière et tout ça. Voilà, je pense que il avait aussi l'envie de continuer un an de plus ici, au moins, et puis voilà. Et puis,
du coup, c'est
peut-être envisager aussi une reconversion à moyen terme sur Évreux. Il faudra voir, mais c'est quelqu'un qui serait intéressant parce qu'il est né à Caen, je crois, mais il a un intellect en plus derrière. C'est pour ça, c'est un mec. Puis connaissance du basket, c'est toujours bien d'avoir des mecs qui connaissent le basket. Donc voilà.
Du coup, on avait Pierre-Étienne Drouot, on avait donc Babacar Niang et Makis Keita qui avait 2 ans. Donc on était 4 avec Guillaume Constantin.
On a un 5e qui est toujours en suspens à l'heure actuelle. C'est Isaiah Cordinier qui a jusqu'au 30 juin.
Qu'il n'ait pas déjà signé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherche juste. Pardon, je t'ai coupé. Oui, jusqu'au 30, il a une option pour pouvoir signer en Pro A.
Alors, il avait un buy-out pour la Pro A, c'est-à-dire qu'il pouvait partir moyennant quelque chose pour la Pro A. Sauf qu'il y avait aussi une clause dans son contrat qui le rendait libre si l'entraîneur s'en allait. Et là, malheureusement, il partirait gratuitement. Quoi. Pour la Pro B, par exemple, si un club de Pro B se positionne et qui lui fait une proposition intéressante, il peut partir pour rien, ce qui est pas très très bon comme contrat.
Beaucoup non.
Mais c'est je pense savoir que c'est Rémi qui avait imposé cette clause-là parce qu'il le voulait à tout prix. Et pour le club c'est pas terrible. Mais bon. Voilà, donc on ne sait pas. Lui pour l'instant, Laurent Plumy m'a dit qu'il souhaitait le conserver, mais que il avait déjà une route de secours s'il venait à partir. Dans le courant de la semaine, parce qu'il pense que ça va se
voilà, ouais, c'est
il aura la réponse là, il va dire soit il me dit oui soit il me dit non, voilà, mais il a une roue de secours au cas où. Mais pour l'instant Isaiah fait partie des joueurs sous contrat, donc ça fait 5. Et là on a eu
il fallait les ricains, il fallait qu'on se positionne un peu sur les ricains,
un trio de ricains, une volée de ricains qui est arrivée entre vendredi et dimanche. Le premier c'était le retour de Billy Walker qui avait fait une saison très correcte avec Évreux, qui avait fait une très belle aussi cette saison avec Lille. Pour avoir parlé avec Billet, quand il est revenu, avait à jouer avec Lille à Évreux, et on voyait qu'il était vraiment attaché au club et qu'il était même déçu de ne pas avoir réussi à persuader Rémi de le conserver, parce qu'il n'était pas très cher, mais Rémi avait flashé sur Glenn Closé, il voulait avoir un pur talent qui s'est avéré vraiment très important à domicile. Par contre, il n'avait pas ce réel talent à l'extérieur, et ça, je pense que Billet est un vrai plus pour ça, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus constant, qui est plus organisateur que gros shooter. Quelqu'un qui défend, qui s'implique, je pense voilà, c'est une valeur sûre, et je pense que c'est aussi un très bon complément avec Matisse Keita. Donc voilà, ça va être c'est le choix qu'a fait Pluvy. Il disait que c'était une de ses priorités dès le départ d'avoir quelqu'un comme Billy Walker dans le centre d'effectif. Donc voilà, très content.
Ensuite, il fallait aborder le poste 5, qui allions-nous avoir en intérieur, en pivot, et là, une...
Eh ben, on a trouvé plus gros que Tig.
Ouais, il est plus costaud, c'est ça.
On a trouvé du plus lourd, un Joe Burton qui affiche 130 kilos sur la balance. Ça doit être un beau bestiau. Grosse différence entre Tig et Burton, c'est que Burton il vient de faire 2 saisons, une en Danemark, bon, qui est pas un gros championnat, mais une aux Pays-Bas. Il s'en est très bien sorti, il joue quasiment partout, il a l'air d'être pas de soucis, il est pas coupé, il fait des saisons complètes, pas de blessures. Un mec manifestement vachement investi dans au sein des équipes, qui remonte un peu les pendules à tout le monde, hein, qui est toujours disponible, qui touchait pas forcément beaucoup de ballons, mais quand il les touche, il en fait bon escient, et lui il est toujours demandeur, donc
plutôt bon passeur d'après ses statistiques aussi.
Voilà, le Pluvy m'a dit que c'est quelqu'un qui avait vraiment envie de le voir à Évreux, parce qu'il pense que c'est quelqu'un qui est très bien et qui, malgré ses 130 kilos, il fait des allers-retours sans aucun problème. C'est un lourd, mais pas un gros, quoi. Donc voilà, contrairement, et il pense qu'il a regardé aussi ses débuts de saison, parce que c'est souvent aussi le problème de ces gars-là, c'est des gars qui sont un peu lourds comme ça, c'est des gars qui sont un peu dans bon point et qui mangent mal, et quand ils reviennent ils partent de très loin. Lui a les 2 saisons au Danemark et aux Pays-Bas, il a toujours fait des bons débuts de saison donc ça veut dire quelque part il est en forme, il sait se mettre en forme à temps. Donc voilà.
Petite aparté sur lui, alors après on n'aime pas, on n'est pas dans On n'est pas dans le voici local, hein, mesdames et messieurs, dames ou gala ou que sais-je encore. Closer, pour en citer trois, vilain. Le monsieur est d'origine, et c'est atypique, indienne. Voilà,
ouais.
Née dans une réserve aux États-Unis d'Amérique.
Ouais.
Voilà, qui a bénéficié d'une bourse un peu particulière. On présentait dans les magazines spécialisés à l'époque. Voilà, universitaire qui a compté dans son
Oregon State.
Ouais. Pour la,
c'est,
la,
pas, ouais, c'est une très bonne université.
C'est pas la dernière des universités nord-américaines. Donc voilà, un profil intéressant en tout cas.
Je pense que si, c'est un gars qui est, voilà, ça va être, on n'a pas vu de mec aussi imposant que ça, je dirais, à Évreux depuis de très nombreuses années. Voilà,
si on a eu la parenthèse Tig, mais qui a été...
C'est une mauvaise parenthèse. Le Tig était clairement en surpoids. Là, je pense qu'on a du lourd, mais j'espère qu'il ne sera pas en surpoids sur la reprise. En tout cas, voilà, plutôt bien.
Et puis, dernière signature. Alors là, je suis obligé de te faire un aparté, ami Philippe. En fait, je m'aperçois que c'est évoqué vendredi dans le journal. Ouais. Et en fait, moi, je tombe des nues. Voilà, signature de Drake Reed à Évreux. Alors moi, là, ça m'a laissé complètement sans voix parce que je ne m'y attendais absolument pas. Je suis pour le coup très ravi. Hein. Je suis ravi de sa signature. Je suis super surpris. C'était dans les clous, c'était une... Parce que
c'est... Alors, en fait, je vais t'expliquer
pourquoi
le principe.
Pourquoi toi, déjà, vendredi, ça sort un peu dans la presse, ça en approche, ça discute, éventuellement.
Parce que il a changé d'agent, et je connais un peu mieux son agent actuel là. Drake, il avait un agent français, il avait un agent américain qui était, qui gérait tout, qui était assez exigeant, et un agent français qui faisait pas le taf, donc il avait changé il y a quelques temps. Là, il est reparti faire un bout de saison en Amérique du Sud, je crois. Et en fait, Drake avait l'habitude d'être très cher à l'intersaison. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il avait du mal à décrocher des contrats. C'est que voilà, il a un shoot un peu atypique aussi, tu vois. C'est pas vraiment un 4, c'est pas vraiment un 3.
Ouais,
on sait pas trop.
Vous le connaissez.
C'est pas des torts, c'est des qualités. C'est-à-dire qu'il est polyvalent sur les deux postes. Lui, il préfère jouer ailier, mais en Pro B, il a plus d'impact au poste 4. Voilà, on savait pas trop. Et puis, en fait, la logique, elle est apparue assez rapidement alors en plus vite, c'est qu'il n'arrivait pas. Lui, ce qu'il voulait, faire revenir comment il s'appelle. Bon, il a fait une proposition, je crois, à Mike Varr, mais c'était hors de prix. Mike Varr a pas laissé un très bon souvenir quand même globalement.
Bizarre, les signes au portail.
Bizarre. Et puis donc il a pris. Il avait l'autre choix, c'était Steve Oyufat. Mais Steve Oyufat, poste 4, un vrai poste 4 français, JFL, trop cher, beaucoup trop cher. Kevin Core aussi trop cher. Donc voilà, il se dit.
Sanchez aussi a été dans les tuyaux aussi, d'ancien de Bourg-en-Bresse.
Trop cher. Le mec, tous trop cher. Il me parle même de tarifs hallucinants. Il dit des postes 4 français, ça devient n'importe quoi. Donc du coup, il change son fils d'épaule. Il se dit, je vais prendre un Ricain 4 pouvant jouer 3. Donc là, la logique, c'est, ils savent très bien qu'il y a Drake Reed. C'est un mec qui va au charbon, qui a une bonne mentalité.
Ah ouais, qui
connaît
le
championnat, qui connaît le club. Hop, proposition. Même agent que Joe Burton. Hop. D'une pierre deux coups, on fait signer les deux arrivent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Des fois, c'est des petites opportunités qui font que ça fonctionne, quoi.
Et du coup, retour
de
Drake Reed à
Évreux, ouais. Retour avec Drake Reed. Donc, deux revenants, un B.A. Walker et puis Drake Reed. Et puis, donc, ce Joe Burton, là, ça va être sympa. Et donc, là, la signature qui vient dans la foulée, c'est que du fait qu'ils ne trouvent pas de poste 4, ils cherchent un poste 5. Et là, ils ont réussi à convaincre Pape Bey, qui est d'origine sénégalaise, mais qui est JFL parce qu'il a été formé à Chalon. Et donc, il a une expérience, il était à Aix-Maurienne l'an passé. Il a fait Clermont, je crois, Aix-Maurienne, Clermont, Chalon en Champagne. Et puis, il lui paraît une bonne expérience. 2m3, pas un gars qui est brillant statistiquement au niveau de l'attaque. Mais par contre, c'est du solide, ça défend. Et puis, ça pallie les éventuelles absences ou blessures d'un Babacar ou d'un, qu'on lui souhaite pas parce que le pauvre, il est emmerdé cette année, mais, ou d'un Joe Burton sur un match ou deux, tu peux trouver, tu te dis, j'ai un vrai poste 5 français. Et donc, il a réussi à l'avoir dans des prix beaucoup plus raisonnables que les postes 4 qui étaient disponibles.
Donc, potentiellement, parce que on a 9 joueurs signés.
Là, on a 9 joueurs signés, ouais.
Voilà.
Je pense que ça s'arrêtera là.
Mais l'histoire veut qu'on ne sait pas trop, parce que Babacar Niang, au départ, il est quand même plus 5. Ou il jouerait 4, alors, pour le coup.
Il va jouer 5-4.
Voilà, 4-5.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, il va commencer à le faire reculer un peu parce que je pense que même si c'est dans son intérêt, il a un bon petit shoot à 3 mètres, quoi. Il va essayer de le faire reculer un peu pour qu'il commence un peu à, pareil, c'est assez tendance maintenant, notamment en Pro B, d'avoir des intérieurs qui s'écartent du cercle. Déjà, ça fait un peu de place au plus lourd et puis ça aère un peu la raquette.
Ça sera le cas pour Overton qui, à mon avis, prend de la place.
Voilà. Donc voilà, je pense qu'il va être une, il va essayer de le faire progresser au moins à ce niveau-là. Puis il est encore tout jeune, Babacar, donc ça va l'intéresser aussi, je pense, de faire évoluer ça.
Alors, dans la presse, on avait lu 8 pros, 2 jeunes, donc là, on est plus sur 9 et 1.
Alors, 9 et 1, ouais, je pense que ça sera ça, 9 et 1. Donc, je ne sais pas du tout qui est susceptible de remplacer Isaiah s'il s'en va. Je pense que c'est bien de ne pas le savoir d'ailleurs, parce qu'il faut plutôt faire confiance à Isaiah pour qu'il reste à Évreux et qu'il refasse une saison, parce que ce serait sympa de le conserver.
Son intérêt,
parce que c'est un pur talent. Et puis surtout, voilà, il devrait se sentir un petit peu redevable. Je sais bien que maintenant le sport business n'a pas forcément de cette notion-là, mais le fait qu'il soit arrivé, qu'il a fait 3 mois sur la touche au départ et qu'il a fini par 3 mois sur la touche à l'arrivée, il a joué que j'irais 4 mois entre temps à Évreux. Je pense que ça serait bien qu'il fasse une deuxième saison pour montrer que voilà qu'il n'est pas venu juste se soigner à Évreux et utiliser la CPAM pour voilà.
Eh ben affaire à suivre. Voilà. Affaire à suivre. C'est voilà. Plutôt clair.
Donc la reprise, pour en finir avec l'ALM, la reprise est fixée donc au 17 août prochain, avec début d'entraînement le 19, voilà. Et puis donc on a un championnat encore, je ne sais pas si tu l'avais déjà vu, mais le championnat qui va commencer dès le 11, enfin pas le championnat, la reprise de la compétition officielle va commencer le 11 septembre.
Leaders Cup encore ?
Non, par la Coupe de France, il y a un tour de Coupe de France, 2 semaines après tu as Recoupe de France, et ensuite tu as les 6 matchs de Leaders Cup, donc les 4 matchs en fait, parce que c'est des poules de 3. Qui vont s'enchaîner, ce qui fait que le vrai championnat va commencer qu'en octobre. Donc on a le temps de s'endormir. Ils ont le temps de se préparer, nos garçons. Hein. Ils ont le temps de se préparer. Mais bon, là-bas, il va y avoir des petits matchs. On va faire un petit match, je vous en parlerai, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Un petit match, normalement, un petit trophée, le trophée des Normands UJSF, c'est l'Union des journalistes de sport en France qui va organiser pour la première fois quelque chose qui était en projet depuis très longtemps. Que le tournoi des Léopards nous avait honteusement pompé d'ailleurs en s'accaparant, vu qu'on avait eu une rencontre avec les présidents de l'époque, notamment M. Prouin à Rouen. On va organiser le premier match donc qui va opposer les 4 équipes normandes de haut niveau, à savoir le Camp BC qui monte cette saison en N1 avec notre cher Philippe Da Silva.
Le STB,
Karim Dac aussi, hein, qui va les rejoindre. Non, pas le STB, le CBC.
CBC, oui, mais après, il y aura le CBC, après,
alors. Voilà, donc il y a CBC, il y a un premier match qui aura lieu à 15h, a priori le 13 septembre, ça sera normalement au Palais des Sports de Caen ou à la salle de Mondeville, si le Palais des Sports est indisponible, parce que c'est pas loin de la, on va caler ça bientôt, mais c'est pas loin de la foire de Rouen, de Caen, et voilà. Donc il y a un premier match entre Caen et Évreux le 13, et un autre match entre Rouen avec son nouveau coach, un petit inconnu qui s'appelle Rémi Valin, et le STB Le Havre. Donc avec un autre inconnu, là, pour le coup, voilà. Donc on va avoir une bonne petite préparation, mais on va avoir du temps aussi pour se préparer parce que ça va commencer tard, voilà, mais octobre, puis après on est reparti pour une belle et longue saison, espérons
exactement. Affaire à suivre. Après, maintenant on a un coach sérieux et un
puis des joueurs qu'on connaît, on aura un peu d'avance, je pense, sur beaucoup d'équipes.
Faudrait bien démarrer la saison et pas perdre
de temps
en route. Vite fait, un petit crochet. Moi, j'avais lu justement dans l'info La Dépêche que vendredi, signature de l'UFC 27. Hein, ça conserve, je crois, 13 des 14 joueurs de l'équipe Fagnon, ouais. Puisqu'après, il y avait quelques petits joueurs qui se greffaient et qui revenaient, qui redescendaient et tout. Christopher Vincent, moi que j'avais connu sous l'ère Mathieu Bonnemer, qui revient, et quand même 5 ou 6 buts, mais surtout 15 passes décisives du côté du FCR. Enfin voilà, d'ailleurs, avancé comme le meilleur joueur de l'effectif. Voilà, c'est une très bonne nouvelle.
Ouais, c'est bonne nouvelle.
Ouais,
bonne nouvelle
pour Évreux. Ouais, très bonne nouvelle pour Évreux. Et puis, l'objectif d'essayer de jouer les troubles faites. Non, vraiment dit, le FC 27 en CFA 2.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas une grande différence. Hein. La différence, ça se fait plus entre le CFA 2 et le CFA. Je pense qu'entre la DH et le CFA 2. Maintenant, il faut pas arriver non plus avec le boulard. Il faut toujours se méfier de nos amis footeux qui ont des fois des comportements un peu bizarres. Mais là, pour le coup, ils ont réussi à faire une vraie belle saison avec vraiment plein de records. Là, je sais pas si vous avez pu lire, là, David Alley qui a fait un papier traçant tous les records qu'il y a eu cette saison à Évreux. C'était vachement bien. Je pense qu'ils ont une base aussi. Ils vont partir sur des acquis. Et puis ça peut être une saison sympa, et puis ça fait quand même plaisir de revoir du sport à l'échelon national, à l'échelon national dans le coin, parce qu'on est un petit peu quand même un peu le parent pauvre, voilà, donc c'est assez bien. Voilà.
Ça doit reprendre fin août, début septembre.
Ouais,
ou...
ça, ouais. Ouais, c'est
on,
ça.
On se retiendra au courant. Volleyball, est-ce que toi, t'as des infos?
Non, rien. Moi, je... ça tarde. Ça D'accord. tarde. Ça tarde. On va peut-être en avoir aujourd'hui ou demain. Là, D'accord. Peut-être avoir quelques petites infos, mais non, pour l'instant, ils prennent. C'est urgent d'attendre.
L'Ovalie?
L'Ovalie, bah, pas grand-chose. Il y a un beau projet là que Mathieu Queval va essayer de lancer là. Avec Franck Deléger, il y a pas mal de retours au club aussi de joueurs qui sont partis des fois à Rouen, des fois un peu plus loin pour leurs études, qui reviennent. Ils se disent confiants, ils espèrent faire une meilleure saison. Je pense que ça serait bien parce que l'an passé, 3 ou 4 victoires, c'était un peu longué. Donc voilà, on espère qu'on verra un peu de à la fois du jeu, mais surtout un peu de victoire aussi pour voilà. Et puis surtout un peu d'ambiance aussi parce que c'était un peu tristoun les joueurs avec les casques sur les oreilles ou qui se défilent avant d'aller boire un coup au clubhouse comme il est les traditions dans le rugby, c'est un peu dommage.
Eh bien, affaire à suivre.
Puis le, on va suivre le Hand surtout.
Ouais.
Le Hand avec Saint-Cé qui connaît sa poule, là, qui va sortir. On va essayer de la sortir bientôt là. Qui connaît la composition de sa poule en National 3. Et puis voilà, ça va être une belle. Ça aussi, c'est sympa d'avoir un club de National dans la région d'Évreux.
Les amateurs de sports locaux, sans qu'on soit au top niveau, hormis la LM Évreux, deuxième échelon national, et le VB bien sûr aussi, deuxième échelon national. Ah, il y aura de quoi s'occuper le week-end.
Ça va être sympa. Et on a un club de niveau élite là depuis la semaine dernière parce que le squash de l'Évreux AC est monté en National 1. Alors c'est un petit peu plus confidentiel quoi, mais reste que quand même c'est une belle. Ils sont partis de l'échelon régional, ils sont arrivés maintenant en National 1. Ils vont jouer contre les meilleurs joueurs du monde.
Hein, donc National 1, c'est français, la D1 de là-bas. C'est de la D1 du milieu.
C'est la D1, voilà, la D1, la Ligue 1, la Ligue 1 du squash. Donc on essaiera de faire un petit focus là-dessus aussi de temps en temps. C'est Jérôme Elaïc là qui le frère de David qui le journaliste a fait la dépêche voilà qui gère la communication du club. Très bien d'ailleurs, on le remercie. Et puis qui a réussi à former un bon petit groupe avec Tom Ford, avec des gars du coin et puis des gars du coin. Il n'y a pas beaucoup de gars du coin d'ailleurs. C'est beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, mais qui sont attachés au club depuis longtemps. Et puis on espère qu'on saura mieux les connaître.
C'est joué le squash du coup.
Alors sur les cours de Jean-Bois.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup Philippe.
On a fait une belle saison. Hein.
Ouais, c'était agréable. Sympa. On a eu des petits manquements sur la fin de saison, mais.
Les blessures.
Bah, les blessures, les négociations, à Paris, beaucoup, dans des halls d'hôtel, pas pris la nuit pour négocier. Savoir si ça continue ou pas, voilà. Et puis des fois des entorses aussi, des blessures, comme t'as dit.
Les entorses sans règlement. Voilà, c'est ça, exactement.
C'était un plaisir, voilà. Philippe, c'était cool.
Bah, moi aussi, c'était une belle saison, c'était sympa. Peut-être l'année prochaine, mais en tout cas.
On vous donnera davantage d'éléments. Il y aura forcément une émission de sport sur antenne de Principe Actif, bien sûr. Mais tant de choses à régler avec l'arrivée du 95.9 et puis cette fin de saison en trombe, là, avec le rock dans tous ces états qui pointent le bout de son nez, et puis la fin d'atelier, XY. Voilà, on reste attentif, on reste investi, mesdames et messieurs, dames. Soyez curieux. Voilà, demain mardi, on traite de quoi dans leur info?
Eh ben écoute, je ne sais pas encore parce que je rentre d'un national de golf éprouvant à la Baule pendant 3 jours. Un national journaliste, c'était difficile et donc j'avoue que j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Je pense qu'il y aura des choses intéressantes, notamment sur le fait de la musique, mais pas que.
D'accord. Et voilà. Sur le sport?
Ah, sur le sport, bien entendu, on va parler notamment de la nouvelle équipe de la LM, là, on va synthétiser tout ce que j'essaie de vous dire là tout aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? On parle un peu de foot, de Passy, on parle de l'équitation, du jumping de Valheim qui a eu lieu hier, qui a rassemblé beaucoup de monde. Voilà, pas mal de petites infos encore.
C'est cool, on ouvre ça demain matin.
Cross aussi, je crois, voilà.
All right, merci beaucoup, Philippe.
À plus.
Auditeurs, auditrices, soyez curieux, soyez attentifs.